4. Un bébé pour Rosemary, dira Levin, 1967, nous fournit la transition idéale pour passer du lieu maléfique à notre sujet suivant. Et peut-être qu'il était temps qu'on sorte de ces maisons hantées avant d'en crever de trouille. Lorsque l'adaptation de Roman Polanski est sortie sur les écrans, je n'arrêtais pas de répéter à mes proches que ce film était un oiseau rare s'il en fut. Si on avait lu le livre, on n'avait pas besoin d'aller voir le film et vice-versa. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, ce n'est jamais vrai, mais le film de Polanski est remarquablement fidèle au roman de Levin, et nos deux lascars semblent être doués du même humour sarcastique. Je ne pense pas qu'un autre cinéaste aurait pu signer une aussi bonne adaptation de ce remarquable roman. Et tant que j'y suis, permettez-moi de préciser que si une telle fidélité est remarquable dans le contexte hollywoodien en général, on a parfois l'impression que les major companies dépensent des millions pour acheter les droits d'un bouquin à seule fin de pouvoir dire à son auteur pourquoi il est raté, sans doute une des formes d'autosatisfaction les plus coûteuses de l'histoire de l'art américain, elle n'a rien de remarquable dans le cas de Levin. Chacun des romans qu'il a écrits est une merveille d'agencement narratif. Levin est l'horloger suisse du roman de suspense. En termes d'intrigue, ses nombreux confrères, moi y compris, ont l'air de fabriquer des montres à trois sous. C'est grâce à ce talent que Levin est invulnérable aux assauts des adaptateurs hollywoodiens, ces béotiens pour lesquels les effets spéciaux passent avant la cohérence du scénario. Les bouquins de Levin sont bâtis comme des châteaux de cartes. Retranchez-en un élément et tout le reste s'effondre. Si bien que les cinéastes ont été obligés de les respecter. Voici ce que Levin pense du film. Je reste persuadé que Rosemary's Baby est l'adaptation la plus fidèle jamais produite par Hollywood. Non seulement le scénario reprend des passages entiers de mon dialogue, mais en outre il respecte la tenue vestimentaire de mes personnages, quand elle est décrite dans le texte, et la disposition de leurs appartements. Et, ce qui est peut-être plus important, le style de Polanski, qui préfère laisser l'horreur à la lisière du champ de la caméra plutôt que de la filmer en gros plan, coïncide de façon heureuse, je crois, avec ma propre démarche. La fidélité de son adaptation s'explique aisément. C'était la première fois que Polanski adaptait l'œuvre d'un tiers. Tous ses films précédents étaient basés sur des scénarios originaux. À mon avis, il ne savait pas qu'il était permis, non, presque obligatoire, de faire des changements. Un jour, il m'a téléphoné depuis Hollywood pour me demander dans quel numéro du New Yorker Guy avait vu cette publicité pour une chemise. J'ai dû lui avouer que j'y étais allé à l'esbrouf. J'avais supposé qu'on trouverait une telle publicité dans n'importe quel numéro du New Yorker, mais celui qui était en vente au moment des faits n'en contenait aucune. Levin a écrit deux romans d'horreur, Un bébé pour Rosemary et Les femmes de Stepford. Et bien que tous deux témoignent de façon éclatante de son talent, ils ne sont peut-être pas tout à fait aussi réussis que son premier roman, lequel n'est plus guère lu de nos jours. La couronne de cuivre est un excellent suspense, raconté avec vigueur, ce qui est déjà rare, mais ce qui est plus rare encore, c'est que ce bouquin, que Levin avait écrit avant d'avoir fêté ses 30 ans, contient des surprises authentiquement surprenantes, et qu'il est invulnérable aux agissements d'un type de lecteur particulièrement lamentable, le lecteur qui regarde les trois dernières pages pour voir comment ça finit. Vous êtes-vous déjà rendu coupable de ce crime ?
Oui, vous. C'est à vous que je parle.
Ne cherchez pas à vous défiler, avouez. Vous est-il déjà arrivé de rôder dans une librairie, de vérifier que personne ne vous observait, et de regarder les dernières pages d'un bouquin d'Agatha Christie pour savoir qui était le coupable ? Avez-vous déjà regardé la fin d'un roman d'horreur, pour voir si le héros réussissait à échapper aux forces ténébreuses ? Si oui, mon sens du devoir m'impose de vous dire trois mots, et ces trois mots sont « honte sur vous ». C'est déjà bien lamentable de corner la page d'un bouquin pour la marquer, mais regarder les dernières pages pour voir comment ça finit, c'est encore plus bas. Si jamais vous avez cette manie, je vous ordonne de vous en guérir, et tout de suite. Bon, encore une digression. Ce que je voulais dire à propos de La couronne de cuivre, c'est que la plus grosse surprise de ce roman, une véritable bombe, est dissimulée aux environs de sa 100e page. Si jamais vous lisez ce passage crucial en feuilletant le bouquin, ça ne voudra rien dire pour vous. Mais si vous avez lu les 100 pages précédentes, ça voudra tout dire. Le seul autre écrivain capable de surprendre le lecteur de façon aussi éblouissante était le regretté Cornell Woolrich, qui publiait aussi sous le pseudonyme de William Irish. Mais Woolrich n'avait pas le sens de l'humour de Levin. Celui-ci parle avec affection de Woolrich et de l'influence qu'il a exercée sur sa carrière, citant « Lady Fantôme » et « La mariée était en noir » parmi ses romans préférés. Un bébé pour Rosemary témoigne davantage de l'humour de son auteur que de son habileté de bâtisseur d'intrigues. La bibliographie de Levin est relativement mince. Il publie environ un roman tous les 5 ans. Mais il est intéressant de remarquer que « Les femmes de Stepford » tient avant tout de la satire. Ce qu'a parfaitement compris William Goldman, qu'il a adapté pour l'écran. Rappelez-vous. « Oh, Frank, tu es le meilleur, tu es le champion !» Voire de la farce. Et qu'un bébé pour Rosemary peut être considéré comme une satire socio-religieuse. Mentionnons également « Ces garçons qui venaient du Brésil », son dernier roman en date. Le titre original est déjà un jeu de mots en soi. Et bien que ce bouquin traite, quoique de façon indirecte, de sujets tels que les camps de la mort et les prétendues expériences scientifiques qu'on y effectuait, parmi les dites expériences scientifiques, rappelons celles consistant à féconder des femmes avec du sperme de chien, ou encore celles consistant à administrer une dose de poison mortel à des jumeaux pour voir si la durée de leur agonie était identique, il vibre constamment d'un humour angoissé et évoque une parodie de ces pseudo-documents à sensation consacrés à Martin Bormann et à ses activités au Paraguay. Je ne veux pas suggérer qu'Ira Levin est une sorte de Jackie Vernon, ou de George Orwell déguisé en loup-garou. Ce serait trop simple, voire simpliste. Ce que je veux dire, c'est qu'il a réussi à écrire d'excellents suspense, sans pour autant produire des tracts dénués d'humour. 2 exemples de tracts dénués d'humour dans le domaine de l'horreur. Damon, de C. Terry Klein, et L'Exorciste, de William Peter Blatty. Heureusement, Klein a fait des progrès et Blatty a cessé d'écrire. Définitivement, j'espère. Levin est un des rares écrivains à s'être attaqué plus d'une fois au fantastique, sans craindre le caractère parfois ridicule de certains des thèmes et des motifs du genre. En cela, il s'est mieux débrouillé que main critique, lesquels se conduisent avec notre genre d'élection à la façon de ces riches dames yankees qui visitaient les enfants dans les usines de Nouvelle-Angleterre pour leur apporter des paniers de victuailles, de la dinde à Thanksgiving et des œufs en chocolat à Pâques. Ces critiques-là, qui sont aussi inconscients de leur élitisme arrogant que de leur ignorance des ressources et des qualités de la littérature populaire, perçoivent parfaitement le caractère ridicule des chaudrons de sorcières, des chapeaux pointus et autres clichés du surnaturel, mais ils ne peuvent pas, ou ne veulent pas, reconnaître les archétypes universels présents dans les meilleures œuvres du genre. Inutile de nier la présence du ridicule. Voici les réactions de Rosemary lorsqu'elle découvre son rejeton. Ses yeux étaient d'un jaune doré, avec une pupille noire fendue verticalement. Elle le regarda. Il la fixa, de son regard jaune doré, puis regarda le crucifix renversé qui se balançait. Alors elle leva les yeux vers eux, qui l'observaient, et son couteau à la main, elle cria « Qu'est-ce que vous avez fait à ses yeux ?» Ils remuèrent et se tournèrent vers Romane. « Il a les yeux de son père, » dit-il. Cela fait plus de 200 pages que nous vivons et souffrons avec Rosemary Woodhouse. Et la réponse de Romane Castevet à sa question ressemble à la chute d'une longue et laborieuse blague. Du genre de celle qui s'achève par un calembour lamentable. Outre ses yeux jaunes, le bébé de Rosemary a des griffes. « Elles sont très jolies, » dit Romane. « Minuscules, toutes nacrées. On lui met des moufles uniquement pour qu'il ne s'égratigne pas. Une queue et des petites cornes. » Lorsque j'ai abordé ce roman durant mon cours intitulé « Les thèmes de la littérature fantastique », un de mes élèves a fait remarquer que, quand il atteindrait ses 10 ans, le bébé de Rosemary serait le seul minime à avoir besoin d'une casquette de baseball sur mesure. En fait, Rosemary a donné naissance à un Satan de bande dessinée. Le diablotin que nous connaissions tous étant enfant
et qui apparaît parfois au-dessus de la tête des personnages de dessins animés pour se disputer avec un petit ange. Levin grossit encore le trait en nous présentant une secte d'adorateurs de Satan presque entièrement composée de personnes du troisième âge. Elles n'arrêtent pas de se disputer sur la meilleure façon de prendre soin du bébé. Le fait que Laura Louise et Minnie Castevet soient trop âgées pour faire de bonnes nourrices ajoute une touche macabre supplémentaire. Et l'instinct maternel de Rosemary s'éveille lorsqu'elle dit à Laura Louise qu'elle berce Andy beaucoup trop fort et que les roues de son berceau ont besoin d'être graissées. Levin réussit son coup parce que ces éléments satiriques accentuent le caractère horrible de son propos plutôt que de le désamorcer. Un bébé pour Rosemary confirme de façon éclatante le cousinage de l'horreur et de l'humour, l'idée selon laquelle l'un ne va pas sans l'autre. C'est là un fait que Joseph Heller a splendidement exploité dans Catch-22 et dont Stanley Elkin a fait un excellent usage dans « Au commencement était la fin », un livre qui aurait pu être sous-titré « Job dans l'au-delà ». Outre la satire, Levin épice son roman d'une bonne dose d'ironie. « C'est bon pour le sang, mes chéris !» comme disait la vieille sorcière des EC Comics. Durant les premiers chapitres, les Castevet invitent Guy et Rosemary à dîner. Rosemary accepte à condition de ne pas les déranger. « Ma petite chérie, si cela devait me déranger, dites-vous bien que je ne vous l'aurais pas demandé, » dit Mrs. Castevet. « Il n'y a pas plus égoïste que moi. » Rosemary sourit. « Ce n'est pas du tout ce que me disait Terry, » dit-elle. « Oh !» dit Mrs. Castevet avec un sourire flatté. « Terry ne savait pas ce qu'elle disait. » Ce qui est ironique dans ce dialogue, c'est que tous les propos de Minnie Castevet sont à prendre au pied de la lettre. Elle est bel et bien égoïste. Et Terry, qui se fait assassiner ou se suicide lorsqu'elle découvre qu'elle a servi ou doit servir d'incubatrice à l'enfant de Satan, ne savait effectivement pas ce qu'elle disait. Mais elle a fini par comprendre. Oh oui. Ma femme, qui a reçu une éducation catholique, affirme que ce livre est également une comédie religieuse, s'achevant par une chute digne des blagues dont je parlais plus haut. Un bébé pour Rosemary, dit-elle, prouve que l'Église catholique avait raison à propos des mariages mixtes. Ils sont condamnés à l'échec. Voilà une analyse qui est d'autant plus intéressante si l'on oppose la judaïté de Levin au contexte chrétien de la secte sataniste qu'il a imaginée. Vu sous cet angle, son roman devient une version œcuménique du classique combat entre le bien et le mal. Avant de quitter le domaine religieux pour étudier le sentiment de paranoïa, qui me semble former l'ossature de ce livre, permettez-moi de souligner que, si Levin travaille assez souvent dans un registre humoristique, nous ne devons pas pour autant en conclure qu'il s'y limite exclusivement. Un bébé pour Rosemary a été écrit et publié à une époque où les journaux titraient sur la mort de Dieu, une des grandes controverses de la fin des années 1960, et ce roman aborde la question de la foi sans aucune prétention, mais avec une certaine intelligence. Le principal thème d'un bébé pour Rosemary me semble être celui de la paranoïa urbaine, par opposition à la paranoïa rurale ou villageoise que traite l'invasion des profanateurs de Jack Finney. Mais ce livre aborde également un thème que nous pourrions résumer de la façon suivante. L'affaiblissement de la croyance religieuse ouvre la porte au diable, à la fois dans le macrocosme, la perte de foi à l'échelle planétaire, et dans le microcosme. L'évolution de Rosemary, qui à la fois lorsqu'elle est Rosemary Reilly, la perd quand elle devient Rosemary Woodhouse, et la regagne lorsqu'elle engendre son enfant infernal. Je ne veux pas suggérer qu'Ira Levin adhère à cette thèse puritaine. Si tel est le cas, je n'en sais rien. Mais elle fournit un excellent point de départ à son récit, et il traite cette idée avec justesse et en explore la plupart des implications. L'évolution religieuse de Rosemary lui permet de construire une allégorie tragicomique de la foi. Rosemary et Guy nous sont présentés comme des jeunes mariés tout ce qu'il y a d'ordinaire. Rosemary pratique la contraception en dépit de son éducation catholique, et tous deux ont décidé de n'avoir des enfants que lorsqu'ils se sentiront prêts. Après le suicide de Terry, ou bien était-ce un meurtre, Rosemary fait un rêve dans lequel elle se fait gronder par sœur Agnès, son ancien professeur, qui lui reproche d'avoir muré les fenêtres du pensionnat, éliminant celui-ci d'une compétition interscolaire. Mais dans son rêve se glissent des paroles prononcées dans l'appartement voisin. Et si c'est sœur Agnès qui parle dans le rêve de Rosemary, c'est la voix de Minnie Castevet que nous entendons.
« N'importe qui ! N'importe qui !» criait sœur Agnès. « Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle soit jeune et bien portante, et qu'elle ne soit plus vierge. Il n'est pas nécessaire que ce soit une droguée ou une traînée que l'on ramasse dans le ruisseau. N'est-ce pas ce que je t'ai dit dès le début ? N'importe qui ! Pourvu qu'elle soit jeune, bien portante et dépucelée. »
Cette séquence onirique est utile à plus d'un titre. Elle nous amuse, tout en éveillant en nous une angoisse diffuse. Elle nous fait comprendre que les Castevet sont plus ou moins impliqués dans la mort de Terry. Elle nous permet d'entrevoir le danger qui guette Rosemary. Peut-être s'agit-il là du genre de détail qui ne peut intéresser qu'un écrivain. Je me sens dans la peau d'un mécano en train d'examiner un carburateur, plutôt que dans celle d'un prof de lettres en train d'analyser un paragraphe. Mais Levin travaille avec une telle finesse que je me sens obligé de vous dire « Regardez, c'est ici qu'il commence à percer votre armure. Voilà le point d'entrée. Et voilà le chemin qu'il va suivre pour atteindre votre cœur. » Mais ce qui fait avant tout l'intérêt de ce passage, c'est que Rosemary a tissé une trame catholique autour des paroles qu'elle a perçues dans son sommeil. Elle donne à Minnie Castevet le rôle d'une nonne. Et c'en est bien une, même si l'ordre auquel elle appartient est plus ténébreux que celui de sœur Agnès. À en croire ma femme, un des principes fondamentaux de l'Église qui l'a élevée est le suivant. « Donnez-nous vos enfants, et ils nous appartiendront pour l'éternité. » Rosemary est une illustration parfaite de ce principe. Ironie suprême, c'est l'affaiblissement superficiel de sa foi qui permet au diable de s'introduire dans son existence. Mais c'est la pérennité de cette même foi qui lui permet d'accepter Andy, et ce en dépit de ses cornes. C'est ainsi que Levin développe son propos dans le microcosme. De prime abord, Rosemary est une jeune femme moderne, qui ressemble à celle de Sunday Morning, le poème de Wallace Stevens. Les cloches de l'église ne signifient rien pour elle, et elle continue de peler des oranges dans sa cuisine. Mais au fond de son cœur, elle est restée la petite Rosemary Rayleigh, la pensionnaire des bonnes sœurs. Le macrocosme est traité de façon similaire, mais à plus grande échelle. Lors du dîner chez les Castevet, la conversation vient à porter sur la prochaine visite du pape à New York. Je me suis efforcé de rendre crédible tout ce qui me paraissait peu crédible dans mon livre, explique Levin, en y incorporant des fragments de réalité. J'avais conservé les journaux parus durant la période où se situait l'action, et j'ai intégré à celle-ci des événements tels que la grève du métro new-yorkais et l'élection de John Lindsay à la mairie. Comme, pour des raisons évidentes, j'avais décidé que le bébé naîtrait le 25 juin, j'ai regardé ce qui s'était passé la nuit où Rosemary devait le concevoir. Et devinez ce que j'ai trouvé. La visite du pape et la retransmission de la messe pontificale à la télévision. Coïncidence troublante, non ? J'ai eu l'impression d'obéir aux forces du destin en écrivant mon livre. Les propos qu'échangent Guy Woodhouse et les Castevet semblent prévisibles, voire banals, mais ils expriment des idées fort importantes dans le contexte de l'intrigue bâtie par Levin. J'ai entendu à la télévision qu'il allait repousser son voyage et attendre que ça, la grève des journaux, soit finie, dit Mrs. Castevet.
Oh, dit Guy en souriant, tout ça, c'est de l'épate.
Cela fit rire Mr. et Mrs. Castevet et Guy avec eux. Rosemary sourit et commença à couper son beefsteak.
« Oui, c'est exactement cela. De l'épate, ni plus ni moins, » dit Mr. Castevet sans cesser de rire.
« Vous pouvez le dire, » dit Guy.
« Tous ces costumes, ces cérémonies, » poursuivit Mr. Castevet. « Toutes les religions sont comme ça, pas seulement le catholicisme. Du grand spectacle pour les ignorants. »«
Je crois que nous choquons Rosemary, » dit Mrs. Castevet.
« Mais non, pas du tout, » dit Rosemary.
« Vous n'êtes pas catholique, au moins, mon petit ?» demanda Mr. Castevet.
« J'ai été élevé religieusement, » dit Rosemary. « Mais maintenant, je suis agnostique. Vous ne m'avez pas choqué du tout. Vraiment pas. »
La sincérité de Rosemary Woodhouse ne fait pas de doute. Mais son vernis agnostique
dissimule une petite pensionnaire nommée Rosemary Reilly qui, elle, est très choquée et qui considère sans doute de tels propos comme blasphématoires. Les Castevet ont en fait organisé une sorte d'entretien d'embauche, souhaitant se faire une idée de la personnalité et des croyances de Guy et de Rosemary. Ils affichent le mépris que leur inspirent l'Église et le sacré, mais Levin nous suggère qu'ils expriment des opinions fort répandues, et pas seulement chez les satanistes.
Mais la foi doit bien exister, nous dit-il. C'est son affaiblissement superficiel qui ouvre la porte au diable. Mais la chrétienté est nécessaire aux Castevet eux-mêmes, car sans le sacré, il n'y a pas de profane.
Les Castevet perçoivent apparemment la présence de Rosemary Reilly sous le vernis agnostique de Rosemary Woodhouse. Et c'est son mari Guy, un authentique païen, qu'ils utilisent comme intermédiaire. Et Guy se révèle admirablement réceptif à leurs travaux d'approche. C'est bien la perte de foi de Rosemary qui la rend vulnérable au diable, et on ne nous permet pas d'en douter. Sa sœur Margaret, une fervente catholique, lui passe un coup de fil peu de temps après que les Castevet ont entamé leur offensive.
« J'ai eu un pressentiment bizarre toute la journée, Rosemary. J'avais l'impression qu'il t'était arrivé quelque chose, un accident ou je ne sais quoi. »
Si Rosemary n'a pas droit à une telle prémonition, hormis le rêve où sœur Agnès parle avec la voix de Minnie Castevet, c'est parce qu'elle n'en est pas digne. Seuls les bons catholiques, nous dit Levin, et on le sent bien jubilé intérieurement, ont droit à de bonnes prémonitions. Ce motif religieux imprègne la totalité du livre, et Levin en tire des effets astucieux. Mais peut-être devrions-nous passer à autre chose après avoir évoqué le remarquable rêve accompagnant la fécondation de Rosemary. Il est tout d'abord significatif que le diable choisisse le moment où le pape visite New York pour accomplir son œuvre. La mousse au chocolat de Rosemary était droguée, mais elle n'en a pas avalé une dose suffisante. En conséquence, elle garde un vague souvenir de sa copulation avec le diable, un souvenir que son subconscient couche en des termes hautement symboliques. La réalité ne lui apparaît que par bribes, pendant que Guy la prépare pour sa rencontre avec Satan. Dans son rêve, Rosemary se retrouve sur un yacht, en compagnie de feu John Kennedy. Jackie Kennedy, Pat Lawford et Sarah Churchill sont également à bord. Rosemary demande à Kennedy si son ami Hutch, qui deviendra son protecteur jusqu'à ce qu'il soit éliminé par la secte, il avait averti Guy et Rosemary que le Bramford était un immeuble dangereux, va les rejoindre. Kennedy lui sourit et lui répond que la croisière est réservée aux catholiques. Voilà une restriction que Minnie n'a pas mentionnée précédemment, mais cela confirme que seule Rosemary Woodhouse intéresse les satanistes. Il apparaît une nouvelle fois que leur but est bel et bien blasphématoire. La lignée spirituelle du Christ doit être pervertie pour assurer la réussite de la conception et de la naissance. Guy ôte l'alliance de Rosemary, mettant symboliquement un terme à leur mariage, mais devenant aussi une sorte d'anti-garçon d'honneur. Hutch fait son apparition pour annoncer l'imminence d'un typhon. Hutch signifie « clapier ». Et qu'est-ce qu'un clapier sinon un abri pour lapin ? Durant la copulation, Guy se transforme en diable, et le rêve s'achève par une vision de Terry qui apparaît comme la victime d'un sacrifice, plutôt que comme une épousée rejetée par Satan. Sous une plume moins habile, une scène onirique comme celle-ci aurait pu être barbante et didactique. Mais Levin l'exécute avec panache, la troussant en 5 pages à peine. Le principal ressort d'un bébé pour Rosemary n'est cependant pas son symbolisme religieux, mais son traitement de la paranoïa urbaine. Le conflit opposant Rosemary Reilly et Rosemary Woodhouse enrichit l'intrigue. Mais si ce livre est authentiquement horrifiant, et telle est mon opinion, c'est grâce au talent avec lequel Levin joue de cette sensation innée de paranoïa. L'horreur est une question de point de pression. Et la paranoïa, n'est-elle pas une des principales origines de notre vulnérabilité? Un bébé pour Rosemary ressemble de bien des façons à la version macabre d'un film de Woody Allen, et la dichotomie Woodhouse-Reilly a également son importance dans ce contexte. En plus d'être une pensionnaire catholique dissimulée sous un vernis agnostique, Rosemary est aussi une fille de la campagne sous ses apparences de femme citadine. Et, comme le dit un dicton américain, on peut faire sortir la fille de la campagne, mais on ne peut pas faire sortir la campagne de la fille. Quelqu'un, et du diable si je me souviens qui, a dit que la paranoïa était la forme la plus achevée de l'acuité mentale. À sa façon un peu dingue, l'histoire de Rosemary donne une démonstration irréfutable de ce précepte. Le lecteur est gagné par la paranoïa bien avant elle. Voir la scène où Minnie lambine pour faire la vaisselle, afin que Roman puisse s'entretenir avec Guy, ou plutôt lui servir son boniment, dans la pièce voisine. Mais elle rattrape son retard après sa rencontre avec le diable et sa fécondation. Lorsqu'elle se réveille le lendemain matin, elle découvre que son corps est couvert d'égratignures, comme si elle avait reçu des coups de griffe. « Ne crie pas !» dit Guy en lui montrant ses ongles. « Ça y est, je viens de les limer !» Minnie et Roman entament alors une campagne de séduction afin de convaincre Rosemary d'utiliser les services de leur obstétricien, le célèbre Abe Sapirstein, plutôt que de se fier aux genoux qu'elle consulte. « Nous avons envie de lui dire « Ne fais pas ça, Rosemary, il fait partie de la bande !» La psychiatrie moderne nous enseigne qu'il n'y a aucune différence entre un paranoïaque schizophrène et nous-mêmes. Sauf que nous réussissons d'ordinaire à contrôler nos soupçons les plus fous, alors que l'aliéné mental donne libre cours aux siens. Un roman comme « Un bébé pour Rosemary » ou encore « L'invasion des profanateurs de Jack Finney » semble confirmer cette idée. Nous avons considéré l'histoire d'horreur comme une forme littéraire tirant ses effets de la terreur que nous inspire tout ce qui s'écarte de la norme. Nous l'avons considéré comme un territoire tabou dans lequel nous pénétrons avec la peur au ventre et aussi comme une force dionysiaque qui risque d'envahir par surprise notre statu quo apollinien si confortable. Peut-être que le sujet de toutes les histoires d'horreur est en fait le désordre et la peur du changement. Et un bébé pour Rosemary nous donne l'impression que tout est sur le point de s'altérer autour de nous. Nous ne voyons pas tous les changements qui nous menacent, mais nous parvenons néanmoins à les sentir. L'angoisse que nous ressentons pour Rosemary vient du fait qu'elle nous paraît être la seule personne normale dans une ville peuplée de fous dangereux. Avant d'avoir lu la moitié du roman de Levin, nous soupçonnons tout le monde. Et 9 fois sur 10, il s'avère que nous avons raison. L'histoire de Rosemary nous permet de lâcher la bride à notre paranoïa et de voir se réaliser nos pires cauchemars. Lorsque j'ai lu ce livre pour la première fois, je soupçonnais même le docteur Hill, le jeune et aimable obstétricien que Rosemary délaisse au profit du docteur Sapirstein. Hill n'est pas un sataniste, bien sûr, mais il jette Rosemary dans les bras des satanistes lorsqu'elle vient implorer sa protection. Si les romans d'horreur servent de catharsis à nos terreurs quotidiennes, alors un bébé pour Rosemary reflète et exploite la paranoïa urbaine qu'éprouve tout citoyen d'une grande ville. Dans ce bouquin, il n'existe aucun voisin aimable. Et les pires spéculations que vous avez pu entretenir au sujet de la vieille dame de l'appartement 9B se voient confirmées de façon éclatante. Le vrai triomphe de ce livre, c'est qu'il nous permet d'être fous pendant que nous le lisons. 5. De la paranoïa des villes à la paranoïa des campagnes. L'invasion des profanateurs, de Jack Finney. Voici ce que Finney lui-même nous dit de son livre qui fut publié chez Dell en 1955. J'ai écrit ce livre au début des années 1950 et je ne m'en souviens plus guère aujourd'hui. Je me rappelle seulement que j'avais envie de raconter une série d'événements étranges se déroulant dans une petite ville, quelque chose d'inexplicable. Tout devait commencer par un chien qui se faisait écraser par une voiture, et on découvrait alors qu'une partie du squelette de ce chien était en acier. Le métal et l'os étaient inextricablement mêlés, si bien qu'il était clair que l'acier avait poussé avec le squelette. Mais cette idée ne semblait déboucher sur rien. Je me rappelle avoir écrit un premier chapitre, plus ou moins tel qu'il est paru, si mes souvenirs sont bons, où des gens se plaignaient qu'un de leurs proches était en fait un imposteur. Mais je ne savais pas non plus où cette idée allait me conduire. Et pendant que je cherchais à bricoler une histoire satisfaisante, j'ai eu vent d'une théorie scientifique selon laquelle la pression luminique pouvait propulser des objets dans l'espace,
lesdits objets étant susceptibles d'abriter une forme de vie dormante. Et voilà comment tout a commencé. Je n'ai jamais été satisfait de la façon dont j'expliquais le mimétisme de ces envahisseurs végétaux. Cela me semblait et me semble toujours faible, mais je n'ai pas pu trouver mieux. J'ai lu quantité de théories sur le sens caché de ce récit, et cela m'a toujours amusé, car il n'y a aucun sens caché là-dedans. Je voulais simplement écrire une histoire, rien de plus. La première adaptation cinématographique était remarquablement fidèle, exception faite de cette fin stupide. Les responsables de cette adaptation prétendaient cependant avoir voulu faire passer un message, et cela m'a tout autant amusé. Si message il y a, je n'en suis pas conscient, et comme ils ont collé à l'intrigue de mon livre, je me demande bien comment ce message a pu s'insinuer dans leur film. Et chaque fois qu'on m'a expliqué la teneur du dit message, elle m'a toujours paru un peu simpliste. Je trouve risible qu'on puisse écrire un livre à seule fin d'affirmer que l'individualisme est chose précieuse, qu'il n'est pas bon pour nous de nous ressembler les uns aux autres. Et pourtant, Jack Finney a écrit quantité de romans et de nouvelles autour de la valeur de l'individualisme et des dangers du conformisme à tout craint. Les commentaires qu'il fait, dans une lettre qu'il m'a adressée le 24 décembre 1979, sur l'invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel, m'ont également arraché un sourire. Ainsi que le prouvent Pauline Kael, Penelope Gilliatt et nombre de leurs confrères, les critiques cinématographiques de renom sont des gens dénués de sens de l'humour et susceptibles de percevoir des significations profondes dans les choses les plus simples. Dans Fury, déclare Pauline Kael, le plus sérieusement du monde, Brian De Palma a trouvé le cœur vulgaire de l'Amérique. On a l'impression que ces critiques se sentent obligés de faire en permanence la démonstration de leur intelligence, un peu comme des adolescents cherchant à prouver leur virilité, peut-être surtout pour leur propre bénéfice. Sans doute est-ce parce qu'ils travaillent sur une forme d'expression artistique utilisant uniquement l'image et la parole. Ils savent que si une éducation scolaire est nécessaire pour comprendre et apprécier toutes les facettes d'un livre, même si ce livre est aussi accessible que l'invasion des profanateurs, n'importe quel illettré peut entrer dans un cinéma pour y trouver le cœur vulgaire de l'Amérique. Les films ne sont que des livres d'images qui parlent, et la nature de leur travail semble doter les critiques de renom d'un solide complexe d'infériorité. Les cinéastes eux-mêmes se rendent parfois complices de cette grotesque comédie intellectuelle, et j'ai applaudi Sam Peckinpah des deux mains le jour où, alors qu'un critique lui demandait pourquoi il avait tourné un film aussi violent que La Horde Sauvage, il lui a tout simplement répondu « J'aime bien les combats au revolver ». Et peut-être ne s'agit-il que d'une rumeur apocryphe, mais si c'est pas vrai, ça mériterait de l'être. Et dans le cas de l'invasion des profanateurs de sépultures, de Don Siegel, les critiques ont essayé d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils ont commencé par dire que le livre et le film étaient des allégories sur la chasse aux sorcières déclenchée par les agissements de McCarthy. Puis Siegel a déclaré que le sujet de son film était en fait la menace rouge. Il n'est pas allé jusqu'à dire qu'il y avait un communiste derrière chaque buisson, mais il ne fait aucun doute que Siegel était persuadé d'avoir fait un film sur la cinquième colonne. Le comble de la paranoïa, pourrions-nous dire. Ils sont parmi nous et ils nous ressemblent comme deux gouttes d'eau. Tout bien considéré, c'est le point de vue de Finney qui semble le plus sensé. L'invasion des profanateurs est tout simplement un bon bouquin. Un bouquin à lire et à savourer pour ses qualités intrinsèques. Durant les 25 ans qui ont suivi sa publication, une version plus courte était parue dans Collier's, un de ces bons vieux magazines qui ont disparu des kiosques pour laisser la place à des périodiques intellectuels comme Penthouse, Screw et Big Butts. Il a presque toujours été disponible en librairie. Son histoire éditoriale a atteint son nadir avec le roman photo publié lors de la sortie du remake de Philip Kaufman. S'il existe un concept d'édition plus lamentable que le roman photo, j'ai peine à en imaginer la nature. Je préférerais que mes gosses lisent des romans porno plutôt qu'une de ces merdes. Quant au zénith de son histoire éditoriale, ce fut sans conteste l'édition Gregg Press de 1976. Gregg Press est une petite maison qui a réédité sous forme de livres reliés
une cinquantaine d'ouvrages de science-fiction et de fantastique, romans, recueils de nouvelles et anthologies qui n'étaient sortis qu'en format de poche. Les directeurs littéraires de Gregg Press, David Hartwell et L.W. Curry, font preuve d'un grand discernement dans leur choix. Et tout amateur de science-fiction digne de ce nom, qui se double pour l'occasion d'un amateur de beaux livres, a dans sa bibliothèque au moins l'un de ses volumes verts, au dos frappé de rouge et d'or. Oh mon Dieu, encore une digression. Enfin, peu importe. Ce que je voulais dire, je crois bien, c'est que Finney a à la fois raison et tort quand il affirme que l'invasion des profanateurs n'est qu'une histoire et rien de plus. Ce que je crois profondément et depuis longtemps, c'est que l'histoire prime sur toute autre considération en matière de fiction. L'histoire définit la fiction et tout le reste. Le thème, l'ambiance, le ton, les symboles, le style, même la psychologie des personnages est secondaire. Certains critiques sont d'une opinion diamétralement opposée à la mienne, et je crois qu'ils se sentiraient beaucoup plus à l'aise si Moby Dick était une thèse de doctorat sur les cétacés plutôt que le récit du dernier voyage du Pequod. Plusieurs millions d'étudiants en lettres ont réduit ce roman à l'état de thèse, mais l'histoire est restée intacte. Voici ce qui arriva à Ishmael. La même remarque s'applique à des œuvres comme Macbeth, La Reine des Fées, Orgueil et Préjugés, Jude l'Obscur, Gatsby le Magnifique et L'Invasion des Profanateurs de Jack Finney. Et Dieu merci, il arrive un moment où l'histoire devient irréductible, mystérieuse, imperméable à l'analyse. Même si vous fouillez toutes les bibliothèques universitaires d'Amérique, vous ne trouverez jamais de thèse intitulée « Les éléments narratifs du Moby Dick de Melville ». Et si vous en trouvez une dans ce genre, envoyez-la moi. Je la mangerai avec du ketchup. Tout ceci est bel et bon. Et pourtant, je pense que Finney tomberait d'accord avec moi pour dire que les valeurs narratives sont déterminées par l'esprit humain qui leur sert de filtre et que l'esprit d'un écrivain est un produit de son milieu autant que de sa personnalité. C'est l'existence de ce filtre qui sert de banquet à cette foule de thésards. Et n'allez pas croire pour autant que je conteste leur diplôme. Dieu sait que, durant ma période universitaire, j'ai remué moi-même assez de merde pour fournir de l'engrais à la moitié du Texas. Mais la majorité des étudiants en lettres de ce pays passent leur temps à découper des steaks et des rôtis invisibles quand ils ne s'échangent pas les habits neufs du grand-duc dans le cadre de la plus grande brocante intellectuelle de tous les temps. Quoi qu'il en soit, le roman qui nous intéresse est un roman de Jack Finney. Et ce simple fait nous permet déjà de faire quelques observations. Premièrement, nous savons qu'il est fondé sur une réalité absolue, une réalité prosaïque et même presque banale, du moins au début. Quand nous rencontrons le docteur Miles Bennell, le héros de ce livre, et je pense que Finney soulèverait une objection si j'employais le terme plus formel de protagoniste, ce dont je m'abstiendrai par conséquent. Il fait sortir de son cabinet son dernier patient de la journée, un pouce foulé. Entre alors Becky Driscoll, et peut-on imaginer un nom plus américain, qui apporte avec elle la première note discordante. Sa cousine Wilma a acquis l'étrange conviction que son oncle Ira n'est plus son oncle Ira. Mais cette note est des plus ténues, à peine audible au sein de la mélodie champêtre que Finney interprète de façon magistrale durant les premiers chapitres. Et son livre est sans doute la meilleure description jamais écrite de la vie dans une petite ville américaine des années 1950. La mélodie dont Finney nous gratifie dans ses premiers chapitres est si discrète et si plaisante qu'elle deviendrait insipide chez un écrivain moins doué. C'est une mélodie douce, agréable, séduisante. Autant de mots que Finney emploie à profusion. Dans la bonne ville de Mill Valley, nous dit-il, il n'y a rien d'extraordinaire, rien de dément, rien d'horrible, rien d'ennuyeux. C'est une ville agréable. Aucun de ses citoyens ne semble être victime de cette vieille malédiction chinoise. Puissiez-vous vivre en des temps intéressants. Pour la première fois depuis longtemps, je pus vraiment regarder son visage. Il n'avait pas changé, toujours aussi séduisant, songe Miles en contemplant Becky. Et quelques pages plus loin, il faisait bon dehors, aux alentours de 30 degrés,
et la luminosité était excellente. Le soleil n'était pas encore couché.
La cousine Vilma est elle aussi bien sympathique, quoique du genre quelconque. Miles est d'avis qu'elle aurait fait une bonne épouse et une bonne mère de famille, mais elle ne s'est jamais mariée.
Ainsi va la vie, songe Miles avec philosophie, sans se rendre compte qu'il profère là un lieu commun.
Il nous dit qu'il ne la croit pas du genre à avoir des troubles mentaux, mais on ne sait jamais.
Ça ne devrait pas marcher, et pourtant ça marche.
Nous sentons que Miles a dépassé les conventions de la narration à la première personne pour s'adresser directement à nous, tout comme il nous semblait que Tom Sawyer s'adressait directement à nous dans le roman de Mark Twain. Et Mill Valley, telle que nous la présente Finney, est exactement le genre de ville où nous nous attendrions à voir Tom en train de peindre sa barrière en blanc.
Mais Huck ne traînerait pas dans les parages, il ne dormirait pas dans sa porcherie, pas à Mill Valley.
L'invasion des profanateurs est le seul des livres de Finney à pouvoir être qualifié de roman d'horreur.
Mais Mill Valley, une ville agréable comme les aime Finney, est le cadre idéal pour un récit de ce type.
Peut-être que Finney n'avait besoin d'écrire qu'un seul roman d'horreur.
Ça lui a suffi pour construire le moule où s'est coulé ce que nous appelons le roman d'horreur moderne.
Si un tel genre existe bien, il ne fait aucun doute que Finney est un de ses créateurs.
J'ai évoqué un peu plus haut l'idée de discordance, et c'est à mon avis un terme qui définit la méthode de Finney dans l'écriture de ce roman.
Une note discordante, puis deux, puis un bouquet, puis un déluge.
Et la mélodie de l'horreur finit par étouffer celle du bonheur.
Mais Finney comprend parfaitement qu'il n'y a pas d'horreur sans beauté, pas de discordance sans mélodie, pas de méchanceté sans gentillesse.
On ne trouvera pas les plaines de Leng dans ce livre, pas plus qu'on y visitera de ruines souterraines et cyclopéennes.
On n'y apercevra pas non plus de monstres rampant dans les couloirs du métro.
À peu près en même temps que Finney écrivait l'invasion des profanateurs, Richard Matheson écrivait sa nouvelle classique intitulée « Journal d'un monstre », un texte qui commence par ces mots.
« Aujourd'hui, maman m'a appelé monstre.
Tu es un monstre, elle a dit. »
À eux deux, ces écrivains ont entamé la rupture avec le fantastique Lovecraftien, qui exerçait depuis 20 ans une influence sans partage sur les écrivains d'horreur américains.
La nouvelle de Matheson fut publiée bien avant la disparition de Weird Tales.
Le roman de Finney sortit en librairie l'année qui la suivit.
Bien que Matheson ait publié deux de ses premiers textes dans Weird Tales, ni lui ni Finney ne sont associés au plus grand des magazines de fantastique et d'horreur américains.
Ils annoncent l'émergence d'une nouvelle race de fantastiqueurs américains, tout comme, durant les années 1977-1980, l'apparition en Angleterre de Ramsey Campbell et de Robert Aickman a peut-être représenté une nouvelle évolution du genre.
J'ai déjà fait remarquer que le troisième sous-sol de Jack Finney était antérieur à la quatrième dimension de Rod Sterling. De la même façon, la Mill Valley de Finney annonce toute une série de petites villes fictives, telles que la Millburn de Peter Straub, la Cornwall Coombe de Thomas Tryon et ma propre Salem's Lot.
On discerne même l'influence de Finney dans l'exorciste de Blatty, où le caractère horrible des événements est encore accentué par le décor que fournit Georgetown, une banlieue à la fois paisible, riche, gracieuse et agréable.
Finney se concentre sur la couture, entre la réalité prosaïque de sa petite ville si vraisemblable et le fantastique pur de ses cosses venues de l'espace.
C'est une couture si finement ouvragée que lorsque nous passons du réel à l'imaginaire, c'est à peine si nous le remarquons.
C'est là une réussite majeure, et à l'instar d'un tour de passe-passe effectué par un prestidigitateur accompli, ça a l'air si facile qu'on est tenté de croire que c'est à la portée du premier venu.
Mais si on voit le tour de passe-passe, on ne voit pas les longues heures de travail qui ont été nécessaires à son exécution.
Nous avons brièvement évoqué la paranoïa à propos d'un bébé pour Rosemary.
Dans l'invasion des profanateurs, la paranoïa est totale, absolue.
partant du principe que nous sommes tous des paranoïaques en puissance, il nous est arrivé à tous de jeter un coup d'œil à notre braguette lors d'une réception pour nous assurer que ce n'était pas nous qui venions de déclencher l'hilarité générale, Fini exploite délibérément ce trait de caractère pour manipuler nos émotions en faveur de Miles, de Becky et de leurs amis les Belisek. Prenons le cas de Vilma. Elle est incapable de nous prouver que son oncle Ira n'est plus son oncle Ira. Mais nous sommes néanmoins impressionnés par sa conviction, ainsi que par une sorte d'angoisse diffuse, aussi redoutable qu'une migraine carabinée. Voici un délire paranoïaque aussi parfaitement rendu que dans un roman de Paul Bowles, ou dans une histoire extraordinaire de Joyce Carol Oates. Vilma tourna vers moi son visage rond et rouge comme une pomme, qui se creusait de rides d'anxiété. Elle souffla « J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il aille chez le coiffeur. Il a fini par y aller. » À nouveau, elle se pencha vers moi, les yeux écarquillés, la voix à peine audible. « Il y a une petite cicatrice sur la nuque d'Ira, un furoncle que votre père avait incisé. Quand ses cheveux sont longs, on ne peut pas voir cette cicatrice. Mais quand il s'est fait rafraîchir, on la voit. Eh bien aujourd'hui, j'attendais ce moment. Il s'est fait couper les cheveux. » Intéressé, soudain, je me redressai. « La cicatrice a disparu ? Vous voulez dire que... « Non !» lança-t-elle avec une sorte d'indignation. « Elle est à sa place, la cicatrice. Tout comme celle dont Ira. » Fini nous fait comprendre ici que nous nous trouvons dans un univers totalement subjectif et totalement paranoïaque. Évidemment, nous croyons cette brave Vilma, même en l'absence de toute preuve. D'ailleurs, le titre du bouquin suffit à nous informer que les profanateurs sont parmi nous. En nous incitant à nous ranger dès le début dans le camp de Vilma, Fini fait de nous des équivalents de Saint Jean-Baptiste prêchant dans le désert. On comprend aisément pourquoi son livre a été récupéré par ceux qui, durant les années 1950, étaient persuadés de l'existence d'une conspiration communiste ou d'une conspiration fasciste ayant pris l'anticommunisme pour alibi. Car dans tous les cas, le sujet de ce livre imprégné de paranoïa est bien la conspiration. En d'autres termes, c'est le genre de bouquin que les excités de tous bords ont vite fait de qualifier d'allégorie politique. J'ai cité un peu plus haut cet aphorisme selon lequel la paranoïa était la forme la plus achevée de l'acuité mentale. Nous pourrions ajouter que la paranoïa est l'ultime défense de l'esprit surmené. Nombre de grands écrivains du XXe siècle, des gens aussi divers que Bertolt Brecht, Jean-Paul Sartre, Edward Albee, Thomas Hardy et même F. Scott Fitzgerald, ont avancé l'hypothèse selon laquelle nous vivons désormais dans un monde de type existentiel, un genre d'asile d'aliénés où les choses arrivent sans rime ni raison. « Dieu est-il mort ?» demande la couverture de Time que Rosemary Woodhouse aperçoit dans la salle d'attente de son obstétricien sataniste. Dans un tel monde, il est parfaitement crédible qu'un demeuré mental ait pu s'installer au dernier étage d'un immeuble peu fréquenté, vêtu d'un t-shirt Hanes, grignotant du poulet et attendant d'assassiner le président des États-Unis avec un fusil acheté par correspondance. Il est parfaitement possible que quelques années plus tard, un autre demeuré mental se soit posté dans les cuisines d'un hôtel pour faire subir le même sort aux frères cadets de ce défunt président. Il est parfaitement compréhensible que des braves gars venus de l'Iowa, de la Californie ou du Delaware aient profité de leur séjour au Vietnam pour se constituer une collection d'oreilles, parfois extrêmement petites. Et il n'est guère surprenant que le monde se dirige tout droit vers la guerre totale à cause des sermons d'un saint homme musulman octogénaire qui est probablement incapable de se rappeler le soir ce qu'il a mangé le matin. Notre cerveau arrive à accepter ces faits si nous supposons que Dieu est parti en vacances, voire à passer l'arme à gauche. Notre cerveau les accepte, mais nos émotions, notre esprit, et surtout notre amour de l'ordre, autant d'éléments essentiels dans la composition de l'être humain, se rebellent. Si nous suggérons qu'il n'y avait aucune raison pour que 6 millions de Juifs périssent dans les camps de la mort, aucune raison pour que des poètes se fassent tabasser,
des vieilles femmes se fassent violer, des enfants se fassent transformer en pain de savon, que c'est arrivé, voilà tout, que personne n'était responsable. Le contrôle des événements nous a un peu échappé. Excusez-nous. Alors l'esprit commence à vaciller. J'étais le témoin d'un tel cataclysme durant les années 1960, au plus fort du conflit des générations qui avait débuté par l'intervention américaine au Vietnam et avait fini par englober des revendications telles que la liberté universitaire, le droit de vote à 18 ans et la responsabilisation de l'industrie en matière de pollution. À l'époque, je me trouvais à l'université du Maine, et bien que je sois entré en fac avec des opinions trop conservatrices pour devenir un gauchiste pur et dur, ma vision du monde s'est altérée dès 1968, après que je me fus posé certaines questions fondamentales. Le héros du « Voyage de Simon Morley », un autre roman de Jack Finney, l'exprime mieux que je ne pourrais le faire. Je suis un homme bien ordinaire. Comme les autres, j'ai gardé de mon enfance le sentiment que ceux qui nous dirigent sont mieux informés que leurs concitoyens, que leur jugement est supérieur au nôtre, en un mot, qu'ils sont plus intelligents que nous, simples mortels. Il a fallu le Vietnam pour que je comprenne enfin. Les décisions majeures émanaient parfois d'hommes qui n'étaient ni plus intelligents ni mieux informés que nous, simples mortels. Pour moi, ce fut là une découverte bouleversante. Une découverte que j'ai peut-être commencé à faire au Stratford Theatre, le jour où un gérant de cinéma, tétanisé, nous a annoncé à mes contemporains et à moi-même que les Russes avaient mis en orbite un satellite spatial. Mais il me fut malgré tout impossible d'adhérer au mouvement de paranoïa galopante qui avait envahi le pays au cours des 4 dernières années de cette décennie. En 1968, durant mon avant-dernière année de fac, 4 Black Panthers de Boston sont venus s'adresser aux étudiants. Dans le cadre d'une série de conférences où les intervenants étaient extérieurs à l'université, afin de leur démontrer que l'establishment industriel américain, sous la houlette des Rockefeller et des AT&T, était responsable de l'émergence d'un État néo-fasciste, de la poursuite de la guerre du Vietnam qui était bonne pour leurs affaires et du climat virulent de racisme, de sexisme et d'étatisme qui régnait sur le pays. Johnson était leur marionnette. Idem pour Humphrey et Nixon. Comme le diraient les Who dans une de leurs chansons, « Voici le nouveau boss, c'est le même que l'ancien. » Une seule solution, la révolution. Les 4 conférenciers ont conclu en nous rappelant le slogan des Black Panthers. « Le pouvoir est au bout du fusil. » Et en nous adjurant de ne pas oublier Fred Hampton. Bon, je ne pensais pas à l'époque, et je ne pense toujours pas aujourd'hui, que les Rockefeller et AT&T étaient innocents comme l'agneau qui vient de naître. Je pensais et pense encore que des entreprises telles que Sikorsky, Douglas Aircraft, Dow Chemical et même la Bank of America étaient plus ou moins persuadées que la guerre était bonne pour leurs affaires. Mais n'investissez surtout pas votre fils là-dedans tant que vous pouvez manipuler la conscription. Si possible, transformez en chair à canon les nègres, les latinos et les pauvres blancs des Appalaches, mais pas nos fils. Oh non, pas nos fils. Je pensais et pense encore que la mort de Fred Hampton était un cas typique de brutalité policière. Mais ces Black Panthers suggéraient l'existence d'une conspiration à l'échelle nationale qui était tout bonnement risible. Sauf qu'aucun de leurs auditeurs ne riait. Une fois la conférence achevée, les 10 auditeurs se sont mis à poser des questions précises et angoissées sur le mode de fonctionnement de cette conspiration, ses échelons supérieurs, sa chaîne de commandement, etc. Finalement, je me suis levé et j'ai dit quelque chose du genre « Cherchez-vous vraiment à nous faire croire qu'il existe dans ce pays une véritable société secrète fasciste ?» Que ses membres, le président de General Motors, celui d'Exxon, plus David et Nelson Rockefeller, se réunissent parfois dans un abri anti-atomique creusé sous le désert de sel de Bonneville afin de déterminer la meilleure méthode pour enrôler encore plus de Noirs et prolonger encore plus la guerre en Asie du Sud-Est ? J'étais sur le point de suggérer que ces conspirateurs se rendaient peut-être dans leur forteresse souterraine à bord de soucoupes volantes.
ce qui expliquerait à la fois la guerre du Vietnam et la recrudescence des observations d'OVNI, lorsque mes condisciples m'ont prié sans ménagement de me rasseoir et de la boucler. Ce que je me suis empressé de faire, le rouge aux joues, conscient de ce que devaient éprouver les dingues qui s'adressent à la foule le dimanche après-midi à Hyde Park. Ce n'était pas une sensation agréable. Le Black Panther, qui prit alors la parole, ne répondit pas à ma question, qui n'en était pas vraiment une, soyons honnêtes. Il se contenta de me dire à voix basse « T'as vraiment eu une surprise, pas vrai, mec ?» Hilarité générale et applaudissements nourris. J'avais bien eu une surprise sacrément mauvaise. Mais j'étais néanmoins convaincu d'une chose. Les représentants de ma génération, complètement déboussolés par les années 1960, cette période où se mêlaient inextricablement le plaisir et la terreur, et où la musique douce des Kingsmen chantant « Louis, Louis » avait laissé la place à la musique pop des Jefferson Airplane, n'avaient pas pu supporter cette transition brutale sans se dire que quelqu'un, ne serait-ce que Nelson Rockefeller, tirait les ficelles en coulisses. Depuis le début de ce livre, je me suis efforcé de suggérer que l'horreur est de bien des façons une expérience optimiste et positive, que c'est bien souvent grâce à elle que l'esprit tente de résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément surnaturels, mais sont quand même bien réels. La paranoïa est peut-être l'ultime bastion de cette forme d'optimisme. C'est l'esprit qui s'écrie « Il se passe forcément quelque chose de rationnel et de compréhensible. Ces choses-là n'arrivent pas toutes seules. » Si bien qu'une tache sur une photo nous persuade qu'un deuxième tireur était planqué sur un talus à Dallas. Nous affirmons que James Earl Ray était payé par certains hommes d'affaires du Sud, voire à la solde de la CIA. Nous négligeons le fait que les intérêts des industriels américains sont complexes et bien souvent contradictoires. Et nous suggérons que notre intervention sincère, mais stupide, en Asie du Sud-Est, avait pour origine une conspiration du complexe militaro-industriel. Ou encore, comme l'insinue des affiches, aussi mal écrites que mal imprimées, qui ont récemment fleuri sur les murs de New York, que l'ayatollah Khomeini n'est qu'une marionnette de... vous l'aviez deviné, David Rockefeller. Notre capacité d'invention si fertile nous pousse à penser que le capitaine Mantell n'a pas été tué par le manque d'oxygène ce beau jour de 1947, alors qu'il pourchassait un reflet de Vénus dans le ciel. Non, il pourchassait un astronef extraterrestre qui a détruit son avion avec un rayon de la mort. Je ne voudrais pas vous donner l'impression que je souhaite vous inciter à rire avec moi de tous ces phénomènes. Bien au contraire. Ce ne sont pas là des lubies de démons, mais des opinions entretenues par des hommes et des femmes sains d'esprit, tentant désespérément, non pas de préserver le statu quo, mais tout simplement de le retrouver. Et quand Vilma, la cousine de Becky Driscoll, affirme que son oncle Ira n'est pas son oncle Ira, nous la croyons instinctivement et sans délai. Car dans le cas contraire, nous avons devant nous une vieille fille en train de perdre les pédales dans une petite ville californienne. Et cette possibilité n'est guère séduisante. Dans un monde sain d'esprit, les braves dames comme Vilma ne sont pas censées devenir dingues. Ce n'est pas convenable. Cette possibilité nous fait entrevoir un chaos bien plus terrifiant que ne pourrait l'être son hypothèse à propos de l'oncle Ira. Nous la croyons parce que, en la croyant, nous réaffirmons sa santé mentale. Nous la croyons parce qu'il se passe quelque chose. Tous ces délires paranoïaques ne sont pas vraiment des délires. Nous avons raison, et la cousine Vilma aussi. C'est le monde qui est devenu fou. C'est une idée grave, je vous l'accorde, mais nous avons tenu le coup en découvrant le monstre de 30 mètres de haut imaginé par Bill Nolan. Et nous tiendrons encore le coup cette fois-ci, à condition de garder les pieds sur terre. Bob Dylan s'adresse à l'existentialiste qui sommeille en chacun de nous lorsqu'il nous dit « Il se passe quelque chose ici, mais vous ne savez pas ce que c'est, n'est-ce pas, Mr. Jones ?» Fini, par l'entremise de Miles Bennell, nous prend par le bras et nous dit qu'il sait parfaitement ce qui se passe ici. Ce sont ces saletés de cosses venues de l'espace. Ce sont elles les responsables.
La trame tissée par Fini reproduit tous les motifs classiques de la paranoïa, et c'est un véritable plaisir de les contempler. Alors que Miles et Becky se rendent au cinéma, Jack Belisek, un écrivain ami de Miles, demande à celui-ci de venir jeter un coup d'œil à un truc qu'il a trouvé dans sa cave. Le truc en question se révèle être le corps d'un homme nu allongé sur une table de billard. Un corps que Miles, Becky, Jack et sa femme Theodora s'accordent à trouver incomplètement formé, pas tout à fait achevé. C'est une cosse, bien entendu, et la forme qu'elle est destinée à prendre est celle de Jack. Nous ne tardons pas à avoir la preuve qu'il se passe quelque chose de terriblement anormal. Becky ne put retenir une exclamation lorsque nous vîmes les empreintes digitales. Et il y avait de quoi. Car c'est une chose que de faire des spéculations au sujet d'un être qui n'a jamais vécu, une ébauche. Mais c'en est une autre toute différente, qui résonne dans les profondeurs primitives de l'inconscient, que d'en avoir la preuve. Il n'y avait pas d'empreinte digitale. Il n'y avait que des cercles totalement noirs et lisses. Nos quatre héros, désormais avertis de la conspiration, décident de ne pas prévenir la police, mais plutôt d'observer l'évolution des cosses. Miles ramène Becky chez elle, puis regagne son domicile, laissant les Belisek monter la garde près de la chose allongée sur la table du billard. Mais Theodora Belisek finit par craquer durant la nuit, et son mari et elle viennent frapper à la porte de Miles. Celui-ci appelle Manny Kaufman, un psychiatre de ses amis. Un psy? Voilà qui éveille aussitôt nos soupçons. Ce n'est pas d'un psy qu'on a besoin, crions-nous mentalement à Miles. Alerte donc l'armée! Et lui demande de tenir compagnie au Belisek pendant qu'il va chercher Becky. Laquelle lui a avoué un peu plus tôt qu'elle avait l'impression que son père n'était plus son père. Arrivé chez les Driscoll, Miles descend au sous-sol et découvre en bas d'une armoire une créature informe sur le point de devenir une pseudo-béquille. Fini décrit de façon brillante la nature de ce processus mimétique. Il le compare à l'impression d'une médaille, au développement d'une photographie, et il évoque plus tard des poupées sud-américaines ressemblant à leur modèle de façon troublante. Mais nous sommes à présent dans un tel état d'anxiété que ce qui nous impressionne le plus, c'est la sournoiserie avec laquelle cette créature a été planquée dans un coin sombre, au fond de la cave, où elle attend son heure. Becky a été droguée par son père, et il s'ensuit une scène hautement romantique, où Miles l'enlève de sa maison et la porte dans ses bras au cœur de la petite ville endormie. On n'a aucune peine à imaginer la soie légère de sa chemise de nuit luisant doucement au clair de lune. Et tout ça pourquoi ? Lorsque Manny Kaufman arrive chez Miles, tout le monde retourne chez les Belisek pour examiner la chose dans la cave. Le corps avait disparu. Sous la lumière crue, il y avait le tapis de feutre vert. Et sur cette prairie artificielle, sauf le long des bandes et dans les angles, on voyait une espèce de duvet grisâtre, semblable à un tas de poussière qui serait tombé des poutres apparentes. La bouche grande ouverte, Jack contempla le billard un bon moment, puis il se tourna vers Manny et lui lança avec une sorte de colère. « Il était là sur le billard, Manny. Il y était !» Manny eut un bref sourire. « Je vous crois, Jack. » Mais nous savons que les psys disent toujours la même chose, juste avant d'appeler les types en blouse blanche. Nous savons que cette poussière n'est pas tombée des poutres apparentes. La créature s'est désagrégée, voilà tout. Mais personne d'autre ne le sait. Et Jack en est bientôt réduit à proférer l'ultime supplique du paranoïaque. « Vous devez me croire, docteur !» Si les citoyens de Mill Valley sont de plus en plus nombreux à croire que leurs proches ne sont plus leurs proches, explique Manny Kaufman, c'est parce qu'ils sont victimes d'une forme bénigne d'hystérie collective, le genre de phénomène qui est peut-être à l'origine de l'affaire des sorcières de Salem, du suicide collectif de Guyana, voire de la danse de Saint-Guy. Mais on sent derrière cette explication toute rationnelle le spectre hideux de l'existentialisme. Ces choses-là arrivent, suggère-t-il, parce qu'elles doivent arriver. La situation finit tôt ou tard par s'arranger.
Et c'est effectivement ce qui se passe. Mrs. Seeley, qui croyait que son mari n'était plus son mari, vient dire à Miles que tout va bien désormais. Idem pour les étudiantes qui étaient terrifiées par leur professeur d'anglais. Et idem pour la cousine Vilma, qui téléphone à Miles pour lui dire à quel point elle est gênée d'avoir fait un tel foin. Évidemment que l'oncle Ira est bien l'oncle Ira. Mais il y a entre toutes ces personnes un étrange point commun. Manny Kaufman est venu les voir pour leur remettre les idées en place. Il se passe quelque chose ici, d'accord? Mais nous savons parfaitement ce que c'est. Merci, Mr. Jones. Nous avons remarqué que le nom de Manny Kaufman ne cesse de revenir. Et nous ne sommes pas des crétins, pas vrai? Foutre non! Il est clair que Manny Kaufman a rejoint les rangs de l'équipe adverse. Et il y a autre chose. Poussé par Jack Belisek, Miles décide finalement d'appeler un de ses amis travaillant au Pentagone afin de lui raconter cette histoire incroyable. Voici le récit qu'il nous fait de ce coup de fil. Il n'est pas simple d'expliquer une histoire aussi longue et aussi compliquée au téléphone. De plus, la communication était désastreuse. Au début, j'entendais Ben, et il m'entendait comme si nous étions dans des maisons mitoyennes. Mais bientôt, quand j'en arrivais au point crucial, l'audition faiblit. Ben était sans cesse obligé de me faire répéter, et il me fallait pratiquement hurler pour me faire comprendre. Difficile de bien s'exprimer, et même de réfléchir logiquement quand il faut répéter une phrase sur deux. Je finis par rappeler l'opératrice et demander un nouveau branchement. J'avais à peine achevé de résumer le chapitre précédent qu'un sifflement strident me jaillit dans les oreilles, et il me fallut parler par-dessus. Évidemment, il contrôle désormais les liaisons de Mill Valley avec le monde extérieur. « Nous avons le contrôle total de l'émission », déclarait la voix inquiétante qui présentait chaque semaine un nouvel épisode d'Au-delà du réel. « Contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. » Le passage cité plus haut ne manquera pas de faire réagir les anciens pacifistes, les membres du SDS et tous les activistes persuadés que leur téléphone était placé sur table d'écoute, ou que le type qui rôdait autour des manifestants avec son icône prenait leurs photos pour l'intégrer à leur dossier. Ils sont partout, ils nous observent, ils nous écoutent. Pas étonnant que Siegel ait été convaincu que le roman de Finney parlait en fait de la menace rouge, et que d'autres y aient vu une allusion au fascisme rampant. À mesure que nous sommes engloutis dans le tourbillon de ce cauchemar, peut-être que nous finirons même par croire que ce sont ces satanés cosses qui étaient planqués sur le talus à Dallas, ou que ce sont elles qui ont avalé du Kool-Aid empoisonné à Jonestown avant d'en faire boire de force à leurs enfants. Comme nous serions soulagés si nous pouvions le croire. La conversation de Miles avec son ami Ben est la description la plus précise que donne ce livre du fonctionnement d'un esprit paranoïaque. Même si on est au courant de ce qui se passe, on n'arrive pas à communiquer ces informations aux autorités. Et il est si difficile de penser avec ce bourdonnement dans le crâne. Tout ceci est également lié au profond sentiment de xénophobie qu'éprouvent les personnages principaux de Finney. L'Écosse représente en fait une menace pour notre mode de vie, comme disait le sénateur McCarthy. « Il faudra instaurer la loi martiale », déclare Jack à Miles. « L'état de siège, que sais-je ? Et faire ce qui doit être fait. Enlever ces choses, les écraser, les pulvériser, les détruire. » Plus tard, alors qu'ils tentent de s'enfuir de Mill Valley, Miles et Jack découvrent deux cosses dans le coffre de la voiture. Voici comment Miles décrit la suite des événements. Elles étaient là, dans les éclairs mouvants de la torche, deux énormes cosses déjà éclatées en plusieurs endroits. Les saisissant à pleine main, je les flanquais sur le sol caillouteux. Elles étaient aussi légères que des ballons de baudruche, sèches et rugueuses sous mes doigts. À ce contact contre ma peau, je perdis complètement la tête et me trouvais en train de les écrabouiller, de les émietter sous mes pieds, sans même me rendre compte que j'émettais une sorte de cri rauque, sans signification. Ah ! Un cri de dégoût et de haine animale.
Adieu les hippies souriants et un peu défoncés, brandissant des pancartes proclamant « Stoppez et faisons connaissance !» Il ne nous reste plus que Miles et Jack, complètement déjantés, en train de danser sur les envahisseurs venus de l'espace. Pas question ici, contrairement à ce qui se passe dans la chose d'un autre monde, de se demander en quoi la communication avec ces extraterrestres serait bénéfique pour la science moderne. Pas de drapeau blanc et pas d'ambassadeur. Les aliens de Fini sont aussi étranges et répugnants que les sangsues qui se collent à votre peau quand vous avez eu la mauvaise idée de vous baigner dans un étang. La raison et l'appel à la raison n'ont pas leur place ici. L'étranger ne suscite qu'une réaction aveugle et primitive. Le livre qui ressemble le plus à celui de Fini est un roman de Robert Heinlein intitulé « Marionnettes humaines ». Il s'agit là aussi d'un bouquin d'horreur dissimulé sous l'attirail de l'ASF. Des envahisseurs venus de Titan, la plus grosse des lunes de Saturne, débarquent sur Terre, prêts à en découdre avec nous. Les créatures imaginées par Heinlein ne sont pas des cosses. Ce sont bel et bien des sangsues. De grosses limaces qui se fixent sur votre nuque et vous chevauchent comme une vulgaire monture. Ces deux bouquins ont entre eux maintes ressemblances, souvent frappantes. Le narrateur du roman de Heinlein commence par se demander à voix haute si elles sont vraiment douées d'intelligence. Il ne cesse de se poser la question que lorsque leur menace a été écartée. Le dit narrateur participe à la construction d'une fusée destinée à s'envoler pour Titan. À présent que l'invasion a été repoussée, l'humanité va attaquer le mal à la racine. « Pas de quartier !» s'exclame le narrateur en conclusion. Mais quelle est la nature exacte de la menace représentée par les cosses de Fini? Le fait que leur invasion risque apparemment d'entraîner l'extinction de l'espèce humaine paraît presque secondaire. Les cosses n'ont aucun intérêt pour les parties de jambes en l'air. Le plus horrible, aux yeux de Fini, c'est que les cosses menacent tout ce qui est doux, agréable et séduisant, ce qui nous ramène à notre point de départ. Alors qu'il se rend à son cabinet, peu de temps après le véritable déclenchement de l'invasion, Miles décrit ainsi le paysage qui s'offre à lui. La vision de Throckmorton Street acheva de me déprimer. Elle me parut crasseuse et misérable sous le soleil matinal. Un tas de poubelles débordantes n'avait pas été vidé depuis la veille. Le globe d'un lampadaire était cassé. À deux pas de mon cabinet, une boutique restait à l'abandon. On en avait barbouillé les vitrines au blanc d'Espagne. Un écriteau proclamait « Alloué » en lettres maladroites, mais il ne disait pas où s'adresser. Et j'eus l'impression que tout le monde se foutait que cette boutique soit relouée un jour. Une bouteille de whisky brisé ornait l'entrée de mon immeuble, et la plaque de cuivre à mon nom, scellée dans le mur, que personne n'astiquait jamais, commençait à se corroder. Si l'on adopte le point de vue farouchement individualiste qui est celui de Jack Finney, les agissements des cosses sont surtout répréhensibles parce qu'ils vont entraîner la transformation de Mill Valley en une réplique de la station de métro de la 42e rue. L'être humain, nous dit Finney, est poussé par sa nature même à créer l'ordre à partir du chaos. Une idée qui colle à merveille au thème paranoïaque de son bouquin. L'être humain veut rendre le monde meilleur. Ce sont peut-être là des idées un peu démodées, mais Fini est un traditionaliste, comme le fait remarquer Richard Gide Powers dans l'introduction à l'édition Greg Press de L'invasion des profanateurs. Si l'on adopte le point de vue de Fini, les cosses sont terrifiantes, avant tout parce qu'elles se fichent complètement du chaos et n'ont aucun sens de l'esthétique. L'espace ne nous a pas envoyé des roses, mais du chien-dent. Ces envahisseurs vont bien essayer de tondre leur pelouse deux ou trois fois, mais ils auront vite fait de renoncer. Les mauvaises herbes ne les dérangent pas. Et on ne les verra pas se rendre à la quincaillerie de Mill Valley pour y acheter du matériel de bricolage destiné à transformer leur sous-sol en salle de jeu. Un représentant de commerce faisant un saut en ville se plaint de l'état des routes. « Si elles ne sont pas réparées vite fait, » déclare-t-il, « Mill Valley va se retrouver isolé du monde extérieur. » Mais pensez-vous qu'une telle possibilité va faire perdre le sommeil à ces saletés de cosses?
Voici l'analyse que fait Richard Gide Powers dans l'introduction mentionnée plus haut. Un examen des livres, publiés ultérieurement par Finney, nous permet de discerner ce que les critiques ont négligé lorsqu'ils ont interprété ce livre et le film qui en a été tiré comme de simples conséquences de l'hystérie anticommuniste de l'ère McCarthy, des attaques irréfléchies dirigées contre l'étranger qui menaçait le mode de vie américain. Miles Bennell est le précurseur des héros traditionnalistes des autres livres de Finney. Mais dans l'invasion des profanateurs, c'est sa ville natale, Mill Valley, qui représente la communauté mythique et idyllique que les autres héros de Finney ne retrouvent qu'à l'issue d'un voyage dans le passé. Lorsque Miles en vient à soupçonner ses voisins de ne plus être de véritables humains et de ne plus être capables d'entretenir des sentiments humains, il se trouve confronté aux prémices de cette modernisation insidieuse et déshumanisante qui est devenue un fait accompli pour les héros ultérieurs de Finney. La victoire de Miles Bennell sur l'Écosse ne contredit en rien les aventures des personnages ultérieurement créés par Finney. Sa résistance à la dépersonnalisation est si farouche que les Écossais finissent par renoncer à leur plan de colonisation et s'en vont conquérir une autre planète dont les habitants tiennent moins à leur intégrité mentale. Un peu plus loin, Powers analyse la nature du héros archétypal de Finney ainsi que le propos de l'invasion des profanateurs. Les héros de Finney, et Miles Bennell en particulier, sont tous des individus intériorisés vivant dans un univers de plus en plus extériorisé. Leurs aventures illustreraient à merveille la théorie de Tocqueville sur les tribulations de l'individu libre dans une démocratie de masse. L'invasion des profanateurs exprime avec les moyens crus de la littérature populaire le désespoir inspiré par la déshumanisation culturelle qui imprègne la terre vaine de T.S. Eliot et le bruit et la fureur de William Faulkner. Finney utilise de façon habile le cliché de l'invasion extraterrestre pour symboliser l'annihilation de la libre personnalité dans la société contemporaine. Il a réussi à créer la plus mémorable de toutes les représentations populaires de ce que Gene Shepherd appelait l'uniformisation rampante. Des rangées de cosses qui donnent naissance à des zombies identiques, aussi dénués de cœur que d'esprit, et qui nous ressemblent comme deux gouttes d'eau. Finalement, lorsque nous examinons l'invasion des profanateurs à la lumière des cartes de notre tarot, nous constatons que le roman de Finney les utilise presque toutes. Voilà le vampire, car les hommes et les femmes que les cosses ont vidés de leur substance vitale sont bel et bien des morts-vivants modernes, comme le fait remarquer Richard Gide Powers. Voilà le loup-garou, car ces hommes et ces femmes ne sont plus vraiment des êtres humains. Ils ont subi un changement fondamental. Et quant aux cosses de l'espace, ces créatures extraterrestres qui n'ont pas besoin d'astronefs pour débarquer chez nous, on peut bien évidemment les ranger dans la rubrique « choses sans nom ». Et on pourrait aller jusqu'à dire, à condition de pousser le bouchon un peu loin, mais pourquoi nous en priver, que les citoyens de Mill Valley ne sont plus que des fantômes ces temps-ci. Pas mal pour un bouquin qui n'est qu'une histoire et rien de plus.